Paso doble.
Paso doble.
Jeudi, polar.
Bonjour Théo Acola.
Bonjour.
Un Américain à Paris, voilà ce que vous êtes, mais un Américain à Paris de longue date, puisque vous travaillez, vous résidez en France depuis 1978. Vous êtes musicien et écrivain, cette année vous avez publié et votre 14e album en musique, avec un double vinyle où vous reprenez 15 chansons de votre panthéon personnel, des Clash au Velvet en passant par Brel ou Dylan, le Nobel Dylan. Et comme vous êtes aussi écrivain, vous sortez un 5e roman. Et c'est un polar. Idaho, Babylone, c'est édité dans la série noire d'Actes Sud. Comme vous, le personnage du roman Idaho, Babylone est un Américain installé en France depuis des années. Comme vous, il est originaire de Spokane. C'est une ville américaine de l'état de Washington, située entre Seattle et Portland. Je me trompe pas?
Pas tout à fait. C'est plutôt... Portland, c'est au sud de Seattle. Donc Spokane, c'est si on part tout droit vers l'est, on prend le 90 et on arrive à Spokane dans 4h30, juste avant d'arriver sur la frontière, sur l'état de Idaho.
Très bien. Et bien alors, comme vous, donc le personnage du roman est originaire de Spokane. Il est artiste, mais il n'est pas musicien ni écrivain. Lui, il est metteur en scène de théâtre. Et alors qu'il est en train de monter un spectacle avec une grande actrice du cinéma, il reçoit un coup de téléphone de sa sœur Marnie, qui l'appelle à l'aide, car sa fille aînée, n'est plus revenue d'un camp de vacances organisé par des religieux. Donc c'est un polar avec une enquête, la disparition d'une jeune fille, mais aussi avec une quête. Peut-être la vôtre, en tout cas celui de la quête du personnage de votre roman, le retour au pays après 30 ans d'exil volontaire, qui permet de poser des questions sur les racines, la culture, la mémoire.
C'est juste, c'est plus ou moins ça. Vous avez dit polar plusieurs fois d'affilée, et c'est normal, étant donné que c'est aussi dans la collection Actes Noirs. Mais quand je l'ai écrit, c'était aucunement ça. C'était plutôt une suite de mes autres romans, à l'exception du 4e qui s'appelle Rakia, qui est vraiment, ça se passe en ex-Yougoslavie. Les autres tournent un peu autour de certains de ces personnages. On peut les lire dans le désordre, ou ne pas lire les autres de tout et quand même s'en sortir. Donc chacun écrit pour vivre indépendamment des autres. Mais celui-ci n'était pas écrit comme un polar, mais à fur et à mesure que ça durait, et quand je l'ai proposé à Actes Sud, j'ai dit quand même, c'est un peu un polar. Il n'y a pas énormément de violence, il y a pas mal d'armes quand même qui sont exhibées, il y a la peur de violence plutôt, la capacité de certaines personnes à produire de la violence, mais par rapport à beaucoup de polars et de beaucoup de séries noires, c'est pas si noir que
mais
ça.
Mais il y a une disparition, pour ne pas dire un enlèvement d'une jeune fille.
Oui, c'est vrai, c'est une espèce d'intrigue.
Et est-ce que vous leur avez dit que c'était aussi un peu votre histoire que vous essayez de mettre en parallèle avec le personnage que vous avez inventé?
Moi, je pense qu'on finit par deviner qu'il y a pas mal de liens avec ma propre biographie. Je pense que les cadres dans mes livres sont souvent complètement autobiographiques. Plusieurs personnages sont complètement calés sur des gens que j'ai connus. Et en particulier, il y a le pasteur évangélique qui est un peu le méchant un peu de l'histoire, qui est peut-être lavé un peu le cerveau de la fille, soit kidnappée, soit partie en fugue. Il s'appelle Tommy, ou Tom, dans l'histoire. Et il est totalement calé sur un de mes meilleurs amis d'enfance.
Ouais, alors justement, on va en parler. Mais pour ne pas enlever le plaisir au lecteur d'Idaho Babylone, on peut dire qu'il y a effectivement deux pistes sérieuses. Est-ce que c'est un embrigadement par une secte religieuse, ou est-ce que cette jeune fille est partie avec un raciste et qu'elle est dans un autre monde? Mais en tout cas, ces deux mondes se retrouvent pour dessiner un peu l'Amérique des Tea Party, l'Amérique de Donald Trump. Est-ce que c'était aussi votre envie, Théo Acola, de parler de cette Amérique-là, cette Amérique qu'on découvre justement en ce moment avec les propos et la force qu'a un homme comme Donald Trump?
Mais pas Trump en particulier, pas ce qui se passe aujourd'hui. Mon livre se passe pendant les élections de 2012. Mais je pense que je parle de cette espèce de mensonge à répétition, pour ne pas dire lavage de cerveau, qui produit cette aile chrétienne extrême, fundamentaliste, comme on dit, ou vous diriez peut-être intégriste, les évangéliques, que peu importe ce qu'on leur raconte, peu importe ce qu'on leur montre, ils vont quand même puiser, soi-disant, la vérité dans la Bible. Et c'est donc, à la limite, c'est un reflet aussi des islamistes en France. Et justement, le fait de... C'est comme un miroir, un peu. Parfois, il y a des jeunes filles qui se font embrigader en France, et parfois, c'est peut-être sous l'influence d'un garçon, ou peut-être pas, on ne sait pas exactement. C'est le même genre de flou. Pour moi, c'est ça qui se passe aux États-Unis, et c'est un peu une espèce de lavage de cerveau en bande, que je trouve assez... inexplicable, mais c'est grâce à ce lavage de cerveau et ce refus de science, de la science, ce refus de fait, tout bêtement, qu'on est capable d'avaler aujourd'hui le trumpisme. Donc, je pense que, quand je pense à l'église de cet ami d'enfance, parce qu'effectivement, cet ami d'enfance qui a pas mal inspiré le personnage de Tom, il a son propre église, à mon avis, dans leur ensemble, malgré leur puritanisme, etc., ils vont voter pour Trump. Qui est le monde à l'envers, étant donné même les qualités morales que ces gens-là sont ou les valeurs familiales, comme on dit, que cet homme, c'est le contraire de ça, mais ils vont voter pour lui parce qu'on leur raconte, et ils se racontent des mensonges à répétition à propos, par exemple, de l'avortement et l'homosexualité, les obsèdes. Ils sont pas capables de tout simplement accepter qu'on est ainsi fait si on est homosexuel. Non, ils continuent à lutter comme ça, et ça, il y a un reflet de ça aussi dans le livre. Et c'est au bout d'un moment, on les regarde un peu et on dit, mais pourquoi ça vous obsède à un tel point?
L'autre obsession, c'est une Amérique blanche. Ils se battent aussi pour ça, les personnages de votre roman, Idaho, Babylone, Théo, Akola.
Oui, mais pas le personnage de Tom, l'évangélique. Ouais. Ce que j'essaie de montrer, c'est peut-être qu'il y a un lien entre les gens comme lui et les gens qui sont effectivement presque Ku Klux Klan dans leur optique, dans leur manière de voir le monde.
À vous entendre parler comme ça, Théo Akola, on a l'impression que c'est un polar très fort, très sérieux, très poignant, mais pas du tout. Il y a beaucoup d'humour, comme si à un certain moment vous vouliez prendre une distance pour mieux raconter cette Amérique-là.
Merci de l'avoir relevé. Effectivement, j'espère qu'il y en a. Parfois, je ne sais pas. Parfois, parce que justement, c'est présenté comme un polar. Je pense que le parti... comique est facilement aussi importante, sinon plus importante même, que le parti intrigue et série noire.
Alors, bien sûr, je vais vous poser la question que tout auteur préfère ne pas entendre, c'est-à-dire quelle est la part biographique, ou du moins la part réelle. Est-ce que vous êtes vraiment retourné aux États-Unis? Est-ce que vous êtes vraiment retourné dans votre ville qui est Spokane? Parce qu'il se trouve que c'est la ville de votre roman, mais c'est aussi votre ville natale, Théo Akola. Est-ce que ce roman, ce polar, est né après un voyage, un retour à ce pays?
Il y avait un grand écart pour moi, mais moins grand que l'écart de Peter Fallenberg. Donc non.
Le personnage, donc.
Oui, oui, c'est moins important et c'est moins un choc particulier, et par chance et heureusement. Ma petite sœur, j'ai effectivement une petite sœur après que ma mère et père ont fait 4 garçons, ils ont fait une fille. Mais sa fille n'a pas été enlevée encore et elle ne pratique pas non plus le chrétianisme évangélique non plus. Donc ça, c'est plutôt inventé. Par contre,
inventé parce que vous l'avez vu autour de vous.
Voilà, j'ai vu ça en particulier. J'ai un couple d'amis d'enfance qui étaient là dedans. Et justement, je me cale pas mal sur eux avec la création de la petite sœur de Peter Fallenberg et son mari. J'ai des amis un peu comme ça qui étaient là-dedans et qui ont réussi à s'en sortir. Et parfois, quand ils en parlent, c'est comme si c'était un culte, alors que c'est une église. Mais c'est une église évangélique. Il faut aussi dire qu'il y a des degrés différents dans les églises évangéliques, mais l'église qui a monté mon ami d'enfance est assez extrême. Et j'ai assisté au service. On peut voir ce qu'ils racontent sur le web. C'est filmé et c'est enregistré. Et c'est que, bon, je me répète, je radote, mais c'est comme une espèce de lavage au cerveau. Et c'est contre ça qu'il faut lutter, je pense.
À quoi ressemble Spokane? C'est quoi? C'est une grande ville?
Je l'ai décrit en détail, en fait. On pourrait penser que je l'aime pas beaucoup, que l'auteur de ce livre n'aime pas beaucoup cette ville. En fait, je pense que j'ai la chance d'avoir grandi là. Parce que pour moi, c'est plus ou moins paisible. Et surtout, la nature est très proche. La ville en soi, c'est de la taille de Rennes, par exemple, 200 000 habitants. Réactionnaire, au fond, plutôt républicain, un peu libertaire, un peu on voudrait se débrouiller tout seul, que le gouvernement fédéral ne devrait pas se mêler à ce qu'on fabrique ici. Et surtout autour, c'est plus extrémiste. Dans la ville a quand même des îles un peu plus éclairées. Et c'est plutôt sympathique de grandir là et à la limite se faire ses dons politiquement, ce que j'ai fait. Mmh. Et ensuite partir. On a envie de partir parce qu'on veut aller à Seattle ou éventuellement San Francisco. Ou mon cas à moi, c'était plutôt New York et par la suite Europe avec Londres et ensuite Paris.
Voilà. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous avez quitté les États-Unis et donc Spokane?
Ça a commencé en 78. Avant ça, j'avais vécu et fait des études à Londres pendant un an. Et je suis retourné avec mon deuxième groupe, Passion Fodder, en 89, vivre à Los Angeles. Et je suis resté là-bas pendant 6 ans.
Musique, toujours. La musique vous accompagne. Théo Acola, vous avez même sorti un album, un 14e album, où vous reprenez aussi bien Brel que Dylan, aussi bien Le Velvet que Les Clash. Ben, on va écouter Bob Dylan.
In the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in the trench coat, bad child, laid off. Says he's got a bad cough, wants to get paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better jump down the alleyway, looking for a new friend. The man in the coonskin cap in the pig pen wants $11 bills with you. Only got 10. He talks sweet foot, face full of black soot. Talking at the heat, put clients in the bed, but the phone stopped anyway. Maggie says the men say they must bust an early May. Orders from the DA. Look out, kid, no matter what you did. Walk on your tiptoes, don't try a no-dose. Better stay away from those who carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows.
Alors Théo Acola, puisque vous reprenez Bob Dylan, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit dans cette chanson.
Oh, c'est du Dylan. Il n'y a pas énormément de sens dans ce texte-là. Et c'est ça qui est drôle avec Dylan parfois. Même sans savoir exactement ce qu'il voulait dire, on est quand même touché par l'alignement des mots. En particulier avec ce morceau, je le présente un peu comme un des tout premiers rap. Pour moi, c'est l'ancêtre du rap, cette chanson. Je le pense très fort. Donc, je voulais le faire autrement que lui, autrement que les autres qui l'ont repris. Ricky Lee Jones, par exemple, l'a repris assez joliment. Moi, je voulais le faire, comme vous avez entendu, un peu hip-hop. Je voulais vraiment exploiter le groove, mettre un groove de base et que ce soit plutôt chanté, lancé de manière plus rap en hommage pour moi un des premiers rap.
Alors mais quand même j'insiste, il s'agit de quoi dans ce morceau?
Oh, c'est vraiment sérieusement, c'est de la poésie. Il y a des chansons de Dylan et je pourrais très facilement dire de quoi il s'agit. Une chanson d'amour, une chanson de colère, une chanson d'aliénation sociale. Mais là, c'est un délire un peu gratuit, même parfois. Si je vous traduis littéralement, ça n'a carrément pas de sens.
Bon, alors, mais vous voulez où je vais en venir, Théo Acola? Je suppose que vous êtes pour l'attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan.
Je suis partagé.
Vous êtes partagé?
Oui, je suis partagé. Évidemment, peut-être c'est la personne de la musique de ma jeunesse qui, grâce à laquelle peut-être j'ai commencé à faire la musique plus tard, assez tardivement dans la vie. Hendrix et Dylan comptaient terriblement. J'ai vu Hendrix quand j'avais 12 ans sur scène. C'est mon premier concert rock. C'est vitalissime. Dylan, c'est vitalissime par rapport au texte. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que Hendrix qui reprend un morceau de Dylan comme All Along the Watchtower? Donc j'étais ému. Quand j'ai vu ça, j'étais tout à fait ému, puisque comme tout le monde, je suis plus ou moins ce qui fait le prix Nobel. De voir Dylan là, ça me touche. Après avoir été ému, je me pose quand même la question, qu'est-ce que les textes de Dylan, donc la littérature de Dylan, qu'est-ce que ça vaudrait vraiment si c'était pas avec musique? Et je pense que ça vaut moins. Mais c'est pas du tout une critique de dire ça. Donc à la limite, on est en train de donner un prix Nobel de la littérature à la chanson. et qui parle les pires des choses. Mais si on prend un texte comme ça et c'est pas sur la musique et avec la voix de Dylan, pour moi, ça n'a pas autant de puissance et de qualité.
Et comme vous êtes venu ce matin avec sous le bras un exemplaire du New Yorker, ça veut dire Théo Acola que vous êtes toujours en contact avec ce qui se dit, ce qui s'est dit aux États-Unis. Est-ce que en Amérique, il y a eu le même débat autour de l'attribution du Nobel à Dylan? Est-ce qu'il y a eu des pour, des contre, comme en France?
Vous dites en contact, je dirais plutôt obsédé actuellement à cause des élections. Je ne sais pas trop. Je crois qu'il y avait des reflets de... Oui, sans doute, il y avait des reflets un peu semblables. Mais j'ai vu, bon, il est anglais, mais anglais d'origine indienne. Salman Rushdie, je sais qu'il était ravi et emballé. J'ai pas trop suivi le débat, en fait. Parce que peut-être que j'ai la prétention d'en savoir plus que pas mal des gens qui, du monde littéraire savent sur lui. Mais ça, c'est... Donc, c'est, les avis des uns et des autres m'intéressent sur ce sujet-là. Pas tant que ça. Ça aurait été Joyce Carol Oates et on aurait été pas content parce que ce n'était pas je sais pas qui. Les avis des uns et des autres m'intéresseraient plus. Dylan, c'est à nous. Et c'est pas peut-être aux autres. Et même si ça touche, bien sûr, beaucoup d'auteurs. Je sais pas. C'est personnel, Dylan.
Vous voulez dire, Théo Acola, que vous étiez obsédé par la politique américaine en ce moment?
Je l'ai toujours été, mais
oui, mais sauf qu'à l'heure qu'il est, c'est plié. Je crois que le danger Trump n'est plus d'actualité. Ou vous dites que on ne sait jamais.
Non, je pense que Clinton va gagner. Il y a un nouveau danger. C'est très sale jeu qui joue Trump. Il dit l'élection se truquait. Deux choses. Il parle des médias qui ont été montés comme s'ils étaient payés par Hillary Clinton pour le casser, lui. Et deuxièmement, il dit, c'est au lieu où les gens vont voter, on va vous voler ce vote, il va avoir fraude. Et vu qu'encore, j'ai dit, les mensonges à répétition marchent bien avec, malheureusement, 38% de la populace aux États-Unis, ça reste une obsession aujourd'hui, puisque c'est très dangereux ce qu'il raconte.
Est-ce que vous irez voter la semaine prochaine, Théo Acola?
J'ai déjà voté par correspondance. On peut voter assez facilement de loin.
Ouais. Est-ce que vous regrettez d'avoir laissé tomber votre engagement politique aux États-Unis?
Oui. On fait des choix dans la vie. Il y a plusieurs voies que j'aurais pu prendre. L'engagement politique, même la pratique politique. J'ai gagné ma vie même brièvement à une certaine époque, dans les années 70, en travaillant en plein temps, par exemple, avec le comité américain pour l'Espagne démocratique. J'étais formé comme organisateur politique et ça me manque, oui. Mais on peut pas tout faire. Si j'étais Springsteen, à la limite, je pourrais me rendre plus utile à la campagne de Clinton, comme il fait, ou comme il avait fait aussi pour Obama. Ce serait bien. Mais en tant qu'organisateur, j'ai pas la force et l'énergie et surtout le placement géographique pour être un organisateur actuellement.
Alors, pour revenir à votre polar, Idaho Babylon, est-ce que, comme le personnage central du livre, Peter Fallenberg, ce retour aux États-Unis, c'est peut-être le début de retrouvailles avec ce pays que vous avez quitté il y a une trentaine d'années?
En fait, ça fait presque chaque été depuis le début 2001 que j'y vais. Chaque été, je passe presque 2 mois. Je tente de passer 2 mois là-bas, plutôt en planque maintenant, à la montagne, la chaîne des Cascades, versant ouest, où c'est là où j'écris le mieux et le plus. Et c'est là aussi où je pêche, c'est vraiment un cliché. Je pêche à la mouche, la truite.
Et vous écrivez toujours en anglais, pourquoi? Alors que vous parlez très bien français, que ça fait longtemps que vous êtes en France.
Je parle pas trop mal le français, mais pas assez pour écrire aussi bien en français que j'écris en anglais. Je n'aurai jamais votre langue à 100%, et j'ai encore l'anglais à 100%.
Et c'est à moi qui dis ça. Alors, Idaho Babylon, pourquoi ce titre? On terminera là-dessus, Théo Acola.
Il faut presque lire le livre pour savoir. Il y a Babylone est évoquée.
Ouais.
Et chez les évangéliques, on pense un peu au roi, c'était Balthazar, qui devait perdre sa place. On le compare à Obama. Donc les évangéliques, ils ont toujours des prévisions, parce qu'ils ont des prévisions grâce à la Bible. Quand les prévisions ne sont pas réalisées, ils trouvent toujours une explication pourquoi Dieu les a laissés tomber, mais que Dieu va reprendre l'affaire en main.
Et ça se passe à Spokane, donc. Et le nom Spokane vient du nom d'une tribu indienne, et ça signifie « fils du soleil ». Je vous remercie d'être passé, Théo Acola. Oh, fils du soleil, merci d'être passé. On se retrouve demain pour parler bande dessinée, pour parler de l'histoire de la musique électronique. Et j'aurai Émilie comme invitée. David Blow, c'est à vous. Les petits matins de France Culture continuent. Merci Théo Acola.
C'est moi.